Bienvenue au cœur du tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Le tourbillon, c'est le symbole du mouvement, d'une jeunesse qui s'interroge, se révolte, se lève, s'active, par le biais de la création et de la culture. Mais d'où vient cette nécessité de créer du beau, de créer du lien? J'accueille ici à mon micro des visages de cette jeunesse culturelle en lutte, pour nous confier leurs envies, leurs doutes, leurs rêves, leurs peurs face à ce monde qui s'effondre. Venez ici écouter cette jeunesse qui nous implore, comme le disait si bien Nina Simone, « S'il te plaît, ne me laisse pas incomprise ». Bienvenue au cœur d'une jeunesse artistique en mouvement. Bienvenue dans le tourbillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode du tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Nous sommes le samedi 2 novembre, il est 11h30 et nous sommes dans un pigeonnier aménagé dans une grange de Haute-Loire. Je suis Marois et je suis évidemment accompagnée de mon superbe binôme et technicien Elio. Aujourd'hui, nous accueillons Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour Marois.
Alors autant vous prévenir tout de suite, Juliette, je la connais très très bien. Elle est pour moi ce qu'on appelle une amie d'enfance. Mais bien au-delà de ça, c'est une amie de bénévolat. De celle avec qui on peut créer et monter à peu près tout, ou presque. Car Juliette, l'associatif, le bénévolat et le culturel, c'est son essence même. C'est ce qui la guide, ce qui la passionne et surtout ce qui la fatigue. Elle est comédienne, metteuse en scène, technicienne lumière, présidente d'associations culturelles à Sciences Po, bénévole passionnée mais aussi très bonne cuisinière. Bref, si on ne pouvait pas la garder pour nous tout seul, elle va nous faire découvrir aujourd'hui toutes ses facettes. Alors pour commencer, Juliette, est-ce que tu peux te présenter comme tu en as envie ?
Moi je suis étudiante, je pense que c'est ce qui me décrit bien actuellement. Je suis étudiante du coup à Sciences Po. Dans le cadre de mes études, je fais énormément d'associatifs, dans le cadre de mes études à Sciences Po et en dehors, comme tu l'as dit, du coup au Festival Nuit de Rêve, qui est un festival de théâtre, oui, forcément, voilà. Et ça, c'est plutôt ce qui me décrit, je dirais que c'est ce qui me décrit le plus en termes de mon quotidien. Et puis je suis une passionnée de théâtre. J'ai fait énormément de théâtre et de tout ce qu'on pouvait faire au théâtre, de la mise en scène, du jeu. J'ai commencé par le jeu pendant 10 ans. Et c'est ce qui m'a intéressée le plus pendant très longtemps. Et puis par la force des choses, je me suis retrouvée à faire de la mise en scène. Parce que du coup, j'ai été responsable de l'association Atelier Théâtre de Sciences Po l'année dernière. Et donc ça venait avec la mise en scène et donc avec le fait de plus faire de jeux. Et ça m'a énormément plu et je me suis rendu compte que finalement, c'était plus vraiment le jeu qui me plaisait énormément, mais plutôt d'être derrière. Et je me suis retrouvée du coup plutôt derrière avec aussi la technique qui a aussi pris de plus en plus de place de par Nuit de Rêve forcément et que j'ai pu pratiquer aussi à Sciences Po pour les impertinents du spectacle qui sont du coup l'atelier théâtre de Sciences Po. Voilà. Et puis si on continue sur l'associatif, je pense que ce qui me décrit aussi en dehors d'un côté artistique, c'est que j'aime aussi énormément être dans le côté gestion, organisation, administratif et que c'est ce qui m'attire le plus actuellement et je pense là où j'ai le plus de choses à apporter en termes de compétences et de temps, je pense. Voilà, donc ouais, je dirais étudiante et théâtreuse.
Et justement, là, tu viens bien de faire un beau portrait, mais ce qui est super intéressant, je trouve, dans ta pratique théâtrale et artistique, c'est que tu as une approche super globale. Donc, comme tu as dit, le jeu, la mise en scène, la technique, l'administration et tout, tu fais pas que jouer. Et alors, quel regard tu portes sur cette approche pluridisciplinaire dans toi, ta vision du théâtre et de la culture?
Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de passer déjà du jeu à ensuite l'envers du décor du théâtre, puis ensuite d'être dans le plus global de la culture. Parce que ça s'est fait dans cet ordre-là, progressivement, à la fois du coup de passer vraiment d'un truc très petit où tout est organisé pour toi, parce que quand tu fais du jeu, tu fais juste du jeu, mais après j'y apporte une importance folle et tout, mais t'es sur scène et
les gens gravitent autour de toi
voilà, et tout est organisé pour ta pratique. Puis ensuite quand tu passes à la mise en scène, tu es en contact avec à la fois les comédiens et comédiennes, à la fois avec la technique et puis aussi l'administratif parce que tu te retrouves à...
On a eu un petit souci technique mais on est de retour. Donc tu nous disais Juliette que quand on était sur le jeu, tout le monde était un peu focus sur les comédiens et que t'as pu voir une autre approche après.
Ouais, voilà, et que ça s'est fait progressivement, et que du coup, quand tu te retrouves ensuite à faire de l'administratif, ou exclusivement ça, il y a vraiment ce truc où tu t'as dans un rôle hyper gratifiant, parce que tu fais des choses qui sont pas créatives, mais tout ce que tu fais, c'est au service de la création. Et finalement, je trouve ça, en tout cas moi, plus gratifiant que de créer en soi, parce que je pense que ce que j'ai à apporter en tant que comédienne ou metteuse en scène, il est pas, enfin, des gens le feront mieux que moi. Et je pense que ma compétence, elle est plus forte et a une plus forte valeur ajoutée d'un point de vue administratif, et que je préfère servir des gens qui, je pense, ont plus de talent que moi et le faire bien. Et donc ça, ce côté pluridisciplinaire, je pense que ça m'a aussi apporté dans ma manière de conceptualiser l'approche administrative aussi quelque chose. Peut-être que si j'avais pas fait de la pratique comédienne ou metteuse en scène ou
oui, côté... tu comprends vraiment ce que vivent les autres rôles.
Oui, voilà, je suis capable aussi de, quand on fait une demande, soit de dire bah en vrai là c'est pas possible, ou de comprendre aussi le on me demande ça, je vais essayer quand même de m'adapter parce que je comprends l'importance que ça a pour une comédienne ou pour une technicienne.
Tu peux donner un exemple par exemple?
D'un point de vue, je sais pas, par exemple, sur le budget d'une salle, de devoir louer cette salle, parce que avec l'association de théâtre, on joue pas dans une salle, enfin on loue une salle et on peut pas y jouer quand on veut, puisqu'on la loue. Donc si tu la loues pour 2 jours avec 2 soirs de spectacle, bah tu peux répéter que le jour du spectacle. Et par exemple, l'année dernière, cette année pardon, l'association de théâtre nous a demandé de louer cette salle une demi-journée en plus pendant l'année pour pouvoir faire une répétition avant le jour J de la représentation, parce que les dimensions de la scène sont différentes. Et donc on en discutait avec ma trésorière, et ma trésorière m'a dit bah en vrai c'est quand même très cher, c'est compliqué, et c'est vrai que peut-être que si j'avais pas eu cette approche là de bah je me suis retrouvée déjà à devoir mettre en scène avec des gens qui sont pas forcément, ils sont pas professionnels, il y en a certains, c'est leur première année de théâtre, peut-être que j'aurais dit pareil, j'aurais dit, bon, bah, en vrai, depuis 6 ans, c'est comme ça, ça va le faire cette année pour vous, j'aurais peut-être dit ça, et là, avoir eu cette approche en amont, et aussi avoir été comédienne, de me dire, bah, je comprends que pour les comédiens et comédiennes, ça soit plus agréable, de dire, bah, on va demander plus de subventions, on va le tenter cette année, et si on obtient un peu plus de subventions, on va essayer de le faire, bah, je pense, bon, voilà, c'est un exemple, c'est très, très particulier, mais je pense que là, j'ai eu cette vision-là un peu différente, voilà.
C'est un peu plus reposant d'être dans un rôle plus administratif et technique que créatif.
Je sais pas si c'est reposant, mais en tout cas
personnellement,
moi,
on va dire de moins avoir apporté.
J'y trouve plus de légitimité en fait. Je me sens plus légitime à gérer des contrats, de la trésor et de l'organisationnel et des plannings, que me retrouver à devoir créer des trucs et avoir une responsabilité créative où je me sens peut-être moins, avec moins de talent quoi.
Et sur toute cette partie de création de manière générale, est-ce que tu trouves aussi que ça permet... tu portes vraiment un autre regard sur la création finale, parce que tu as toutes les petites facettes.
Au théâtre, ça c'est sûr, parce que par exemple, disons que ça fait 4 ans que je fais vraiment de la lumière. Avant, quand j'allais voir un spectacle, je me posais pas la question de la lumière. Or maintenant, quand je vais voir une pièce de théâtre, bah il y a la pièce, il y a la mise en scène, il y a le jeu, mais la lumière, ça prend aussi une part dans ma manière. Après, quand je sors du spectacle, quand on me demande est-ce que t'as aimé la pièce, je vais être en mode ah bah ouais, c'était trop bien et la lumière était super. Et d'ailleurs, c'est même une blague avec mes amis quand on sort du théâtre ou d'un truc, de venir me parler de la lumière alors qu'ils y connaissent rien, de me dire ah là là, cet effet lumière, il était trop bien et tout. C'est un peu devenu une blague et tout, mais c'est la réalité, je pense.
Et
que
t'as conscience de tous les éléments d'une création maintenant.
Ouais, vraiment. Ou d'un point de vue en termes de décor, je me dis waouh, alors ça a dû être insupportable à faire en termes de décor, à transporter. Enfin, c'est des tout petits points que du coup j'ai pu expérimenter et je me dis waouh, quand je vois la pièce, j'ai aussi le côté de l'aspect organisationnel et technique que je vois.
Tu te dis waouh, les répètes, c'était dur.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et la technique, comment t'es arrivée petit à petit? Pourquoi t'as eu envie justement de prendre ce rôle-là aussi?
Du coup, un peu par circonstance. C'est un peu banal, mais je me suis retrouvée à être en répétition, pas du coup sur scène, mais à être en répétition avec des gens. Et donc bah, quand les gens sont sur scène et qu'on est juste dans le public, en répétition, tu te retrouves avec la personne qui fait la technique et avec qui du coup j'étais assez petite et avec qui pour qui j'avais pas mal d'admiration. Et du coup, ça m'a un peu amenée à ça. J'étais avec elle, elle m'a amenée en régie aussi. Et j'ai trouvé ça assez cool et stylé. Je trouvais ça trop stylé.
C'était un peu un hasard de rencontre au départ.
Ouais, c'est vraiment un hasard. Non, c'était pas du tout une envie, mais je pense que du coup, j'ai trouvé ça bien. j'y étais amenée parce que j'étais enfant et que je pense que j'avais de l'admiration pour cette personne et que comme elle faisait ça, j'avais envie de faire pareil. Mais je pense que si ça m'avait pas plu, j'aurais pas continué. Mais du coup, cette rencontre-là m'a permis de me lancer là-dedans et d'être par ça. Puis les gens que j'ai rencontrés ensuite qui faisaient aussi ça pendant le festival, c'est aussi des gens avec qui je m'entendais bien, qui étaient aussi, je pense, très différents des gens avec qui j'étais en dehors du festival.
Parce que tu es bénévole depuis un moment dans un festival ?
Ouais. Le festival Nuit de Rêve, du coup, qui est un festival en Haute-Loire qui se passe tous les étés autour du 14 juillet, qui est donc entièrement organisé et pensé et conceptualisé sur le moment par des bénévoles, des gens qui sont pas professionnels, et donc la technique aussi, puisque la majorité des techniciens et techniciennes viennent donc de la filière technique de l'école de l'INSA Lyon. Voilà, donc là quasiment tout le monde vient de l'INSA et donc c'est des gens que moi je côtoie pas dans mon quotidien, enfin moi je côtoie des gens de Sciences Po, c'est des gens très différents
des techniciens ingénieurs
de l'INSA, et je pense que ça m'a aussi plu d'être avec des gens très différents qui avaient d'autres visions du monde, d'autres approches, même du coup du théâtre, et donc à la fois par les gens que j'ai rencontrés et par l'intérêt que j'y ai trouvé aussi parce que j'étais comédienne et que je me disais waouh, ah oui, j'avais pas conscience de ce que ça représentait de faire de la lumière en fait. Bon, moi c'est plus du coup la lumière qui m'a parlé parce que je pense que c'est plus visuel et que, enfin forcément c'est plus visuel et ça me parle plus. J'ai trouvé ça assez impressionnant et puis de fil en aiguille au début, bah voilà, pendant le festival, du coup pendant ce festival qui se passe en plein air, on se retrouve aussi beaucoup à monter des scènes, déplacer des trucs. J'ai commencé par ça parce que j'étais avec des gens avec qui je m'entendais bien. Et puis, bah, de fil en aiguille, tu es avec ces gens-là pendant le festival, tu les suis, tu grandis, donc tu gagnes en compétences. Et puis, tu te retrouves au final à faire ta première créa, puis tes régies et des réglages.
La voilà. Technique, c'est une histoire d'amitié au départ.
Oui, en tout cas pour moi, c'est sûr que c'est une histoire d'amitié, parce que j'y serais jamais arrivée sans ça.
Et tu as réussi à petit à petit à y trouver aussi ta légitimité, même si ce n'était pas du tout ton domaine de départ et que... L'électricité, c'est pas ton truc au départ.
Je pense que je travaille encore là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai l'occasion de faire de la technique qu'une fois par an, pendant 2 semaines. Alors c'est très intense et je pense assez diversifié. Mais je pense que c'est quand même aussi une approche très particulière dans un contexte qui est particulier.
Dans un contexte assez rodé aussi.
Ouais, rodé. Puis quand même dans des conditions... dans des conditions pas forcément optimales toujours. Voilà.
Pour dépeindre un peu le tableau, on monte un festival en plein air de 4 jours au milieu d'une forêt où il n'y a même pas d'électricité. Donc effectivement, voilà. Tout est du gros bricolage.
Voilà, c'est ça. On fixe des projos dans les arbres. Enfin, c'est quand même un peu particulier. Et du coup, déjà, d'en faire qu'une fois par an, on oublie tout en fait en un an. Donc quand on revient, on a un peu l'impression qu'il faut repartir du début alors qu'on se retrouve avec des gens qui font ça toute l'année et qui sont bien meilleurs que toi. Du coup c'est difficile, mais bon voilà, les gens sont bienveillants, ils apprennent. Et puis moi j'ai eu l'occasion de faire du coup 2 stages l'été dernier en dehors du festival. Ça m'a apporté une vision différente dans un contexte beaucoup plus professionnel et peut-être plus encadré avec plus de moyens. Voilà. Ça m'a apporté aussi, je pense, des compétences et une certaine légitimité en me disant « Ah, j'ai appris des choses ». Il y a eu plus le temps parce qu'au festival, on est pressé, on a moins le temps d'apprendre des choses. Et là, il y a eu plus de... On a un peu plus pris ce temps-là. Puis après, avec l'expérience, en vrai, là, je commence à avoir pas mal de... quelques créas à mon actif, quelques régies. Et puis aussi le fait, du coup, j'ai pu faire des créations lumière pour les associations de Sciences Po Bordeaux l'année dernière. J'ai fait la créa lumière, du coup, de la représentation de théâtre, du coup, dans laquelle j'étais aussi metteuse en scène. Puis j'ai aussi fait la création lumière de la comédie musicale, puisqu'il y a aussi un atelier de comédie musicale à Sciences Po. Et du coup, j'ai pu faire leur créa lumière. Et du coup, là, j'étais toute seule, donc j'avais aussi le côté... je suis un peu dans le grand bain et j'ai aussi pas le regard de quelqu'un qui est plus grand que moi, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et j'ai pas non plus aussi envie de décevoir la personne ou un truc comme ça. Et là j'étais toute seule face à des gens qui n'y connaissaient rien, parce que j'étais avec des metteurs et des metteuses en scène qui connaissaient rien à la lumière, donc j'étais plutôt dans la connaisseuse, et donc ça m'a aussi, je pense, permis de gagner en légitimité.
Ouais, de comprendre que tu pouvais t'en sortir, ouais, toute seule aussi.
Ouais, c'est ça, de faire ça toute seule. Je pense que ça m'a aussi fait du bien.
Il ne faut pas juste avoir fait des cours de thermo pour savoir faire des créas à lumière, quoi. Dans tout ce que tu racontes depuis le début, tu as fait beaucoup de... Tout le travail que tu as fait, il était quasiment tout le temps collectif. Ça partait pas trop d'une ambition intime ou en tout cas d'un truc très individuel. Pourquoi tu avais besoin justement de ce travail collectif ?
Je sais pas du coup si c'était un besoin en soi parce que bah c'était un peu un concours de circonstances. Enfin, j'étais obligée en soi. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très agréable de travailler en collectif parce que je trouve ça encore plus gratifiant à la fin d'avoir réussi à faire un truc aussi gros à trois. Enfin, en tout cas, du coup, dans le cas de la pièce que j'ai montée l'année dernière, on était trois. On se connaissait pas avant de se retrouver à devoir monter une pièce ensemble. Donc on s'est pas choisi, on se connaissait pas, l'entente était pas forcément toujours parce qu'on avait des caractères très différents, donc forcément quand en plus tu te connais pas à la base, tu peux pas savoir que ça va bien ou mal se passer. Mais à la fin, quand tu as monté une pièce qui dure 1 heure et demie, qui est assez compliquée, où tu dois tout gérer, tu dois diriger 24 comédiens à trois, en l'espace de 2 mois, donc il y a beaucoup de stress, gérer les études à côté et quand même être dans l'écoute avec trois personnes et tout ça, bah à la fin, quand les gens viennent te voir en te disant ce que vous avez fait, c'est super, bah même si ça a été compliqué, ce vous, il est hyper gratifiant et ça crée aussi des liens très particuliers avec les gens. Et c'est des liens que tu crées pas autrement que en faisant de la création aussi intensément.
Ouais, et puis en faisant des choses avec les gens, ça crée des choses, quoi. C'est ça
Oui, c'est ça.
qui
C'est pas forcément des amis, si en tout cas c'est pas devenu tes amis en soi, mais c'est vraiment des gens avec qui tu partages quelque chose de particulier. Enfin, c'est pas partager un enfant en soi, mais tu partages un. Non, mais tu partages un truc qui sort de.
tu crées un commun,
Ouais, tu crées vraiment un objet plutôt tangible à trois. Et du coup, il y a un peu ce côté de c'est à nous trois.
Tu sors de toi pour aller vers quelque
Ouais,
chose
du
d'autre,
coup, il y
quoi.
a un côté bah, enfant dans une moindre mesure, mais moi, j'y retrouve un peu ce truc. Enfin, on rigolait en disant c'est notre bébé, en fait, ce truc-là, quoi.
Oui, cette expression, en fait, qui a
Ouais,
un peu de
voilà.
sens, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et justement, donc, quand vous mettiez en scène d'autres étudiants qui avaient plus ou moins votre âge, alors pas forcément les mêmes pratiques, etc. Mais voilà, tes pères, quoi. Tu ne mettais pas en scène des enfants de 11 ans. Comment on arrive à trouver cette légitimité?
Alors oui, ça c'était une question que je me suis posée parce qu'en gros du coup dans l'association d'année en année, enfin c'est comme ça que fonctionnent toutes les assos à Sciences Po à peu près, les gens de l'année d'avant nomment les gens qui suivent, sauf pour certaines associations où il y a une élection, mais en tout cas moi dans le cadre de l'atelier théâtre, c'est les trois responsables de l'année d'avant qui choisissent les trois d'après. Donc on te propose et tu dis oui ou tu dis non, t'es pas un couteau sous la gorge. Mais donc moi je me suis posé la question quand on m'a dit bah, est-ce que tu veux faire, je me suis dit ok, ça implique à la fois de l'administratif, ça en vrai je peux gérer. Parce que je sais que je suis douée à peu près à ça. Mais c'est vrai que de faire de la mise en scène et de diriger des gens, parce que de la mise en scène, en vrai, des idées de mise en scène, ok, tu peux en avoir. Mais il y a ce côté de devoir dire à des gens, là, tu devrais faire autrement que ce que tu viens de faire, alors qu'ils jouent mieux que toi. Parce que la majorité des gens que j'ai mis en scène jouaient bien mieux que moi. Mais toi, en tant que metteuse en scène, tu as un regard et tu dois te sentir légitime de dire, en vrai, là, la manière dont tu as fait, je pense que. Elle colle pas avec ce qu'on veut dire. Et en fait, je pense que la légitimité, en tout cas moi personnellement, je pense que tous les trois, du coup, mes deux autres metteuses en scène, on a trouvé notre légitimité différemment. Mais en tout cas, moi, ma légitimité, elle venait du fait que j'ai fait beaucoup d'années de théâtre. Du coup, moi, j'ai fait 10 ans de théâtre depuis que je suis en CM2 jusqu'à ma première année de Sciences Po. Donc, je suis passée par quatre personnes qui m'ont dirigée différentes. J'ai fait plein de pièces différentes. Donc j'ai une expérience et je sais aussi ce que je n'aime pas quand on me met en scène. J'ai vu des gens me mettre en scène, donc j'ai l'habitude et donc j'ai trouvé cette légitimité-là là-dedans. Et en ayant été comédienne, je sais aussi un peu la posture que j'aimerais qu'on ait en face de moi. Et j'ai aussi du coup l'année d'avant, enfin lors de ma première année, j'ai été mise en scène par des gens qui avaient à peu près mon âge. Donc je sais aussi, pareil, je me suis aussi placée par rapport à ça. Et puis aussi le fait de choisir la pièce. Quand on choisit une pièce et qu'on choisit la mise en scène, je trouve que cette légitimité-là de dire à quelqu'un fait comme ça, enfin voilà, elle est. On se dit oui, en vrai c'est moi qui monte le truc, donc j'ai le droit de dire comment faire quoi. Mais c'est personnel. Je pense que tous les trois on n'avait pas la même manière de trouver notre légitimité.
T'es étudiante donc en quatrième année à Sciences Po. C'était un parcours qui te tenait un peu à cœur. Pourquoi t'as décidé d'aller justement vers ces structures-là d'école et donc d'associatif? Parce que c'est une part très importante à Sciences Po.
Ouais, je pense que vraiment, donc cette école, ça a été d'abord, enfin, d'abord j'ai choisi ce que je voulais faire en termes de matière, donc pas des sciences. Et après, j'ai regardé ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire en dehors des sciences. Donc en gros, dans l'imaginaire, tu as soit la prépa, soit les grandes écoles. Donc les grandes écoles, c'est Sciences Po.
Moi, je pense que...
Ou la fac. Mais moi, la fac, en vrai, elle est un peu diabolisée dans ma famille. Et puis, du coup, j'y viens, mais il y a ce côté aussi... moi, je pense que j'ai grandi avec l'imaginaire des études de ce côté école, parce que mes parents ont fait des écoles et... ils m'ont raconté ça, enfin voilà, j'ai cet imaginaire là et surtout moi j'ai ce côté j'ai besoin en vrai d'avoir ce côté un peu école corpo, mais dans le bon sens du terme,
un peu cocon quoi.
Ouais, c'est ça, où tu connais les gens, les locaux sont un peu petits, t'as des structures, en fait t'as des structures qui te facilitent la sociabilisation, et ce qui n'est pas forcément le cas à la fac, et ça du coup ça me... j'avais pas du tout envie de ça. Et Sciences Po, comme tu l'as dit, l'associatif, ça fait partie limite du cursus. Je pense que ce qu'on nous... faire partie d'une association fait vraiment partie de l'enseignement, parce que ce qu'on apprend à faire en association, c'est en partie ce qu'on va faire dans notre vie. Et on n'a pas de cours, en fait, en dehors de l'associatif, pour apprendre ce qu'on fait dans une association. Et je pense que là, si j'avais jamais fait d'associatif en dehors de Sciences Po ou dans ma vie, et que je me retrouvais à sortir de Sciences Po et à devoir faire de la gestion, parce que c'est sûrement ce que je vais faire, dans une structure culturelle, bah, je me sentirais vachement moins légitime ou vachement moins à l'aise ou dans l'idée de je vais y arriver si j'avais pas du tout fait d'associatif à côté. Donc Sciences Po, ça m'a attirée pour ça, parce qu'il y avait, ouais, parce qu'il y avait des associations et parce qu'après, bah, les thèmes qu'il y avait autour en termes de cours,
oui, ça
résonnait avec ce que j'avais envie de faire, quoi. Mais l'associatif, ça a été ce pourquoi je suis allée vers une école et pas forcément la fac.
Et comment tu décris justement la place de la culture à Sciences Po?
Alors, la particularité de Sciences Po, c'est qu'on n'est pas tant que ça, mais même en étant pas tant que ça, il y a quand même des microcosmes avec des poules un peu de gens qui se mélangent peut-être pas forcément, ou alors qu'à des occasions très particulières. Et je pense que la culture a une place importante pour une partie des gens à Sciences Po, et pour cette partie des gens, elle a une place très importante dans leur vie. Et tout leur cursus, leur choix, à la fois dans les cours, dans leur master, dans leur orientation professionnelle et dans ce qu'ils font en dehors de leur temps, tout ça tourne autour de la culture. Et il y a aussi des gens qui sont pas forcément dans ça, et c'est totalement ok et on comprend. Mais du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont dans la culture à Sciences Po, et donc eux, ça prend une place très importante dans leur vie, et ça prend une place importante du coup à Sciences Po parce qu'on se bat pour que ça prenne une place. Mais pour d'autres, ça n'a pas du tout cette place. Et à Sciences Po, du coup, là où je suis, je pense qu'il y a une culture du sport très forte, qui peut-être prend le pas aussi sur ce qu'on peut donner comme visibilité à la culture. Et peut-être que la culture et nos pratiques à nous, elles ont moins de visibilité que les pratiques sportives, en tout cas dans mon établissement à moi. Je ne sais pas si c'est général à tous les établissements, les IEP de France, mais voilà. Mais en tout cas, nous, dans notre... Donc parce qu'à Sciences Po... la pratique artistique, elle s'organise autour du Bureau des Arts, du coup, qui est une grande association qui chapeaute tous les autres ateliers, donc notamment par exemple l'atelier de théâtre dont j'ai parlé ou la comédie musicale, donc en général un peu moins d'une vingtaine.
Et tu co-présides maintenant ce Bureau des
oui.
Arts.
Oui, et cette année je suis en co-présidence de ce Bureau des Arts. Et donc au sein du Bureau des Arts, il y a une forte implication. Et ce qui est aussi gratifiant, c'est qu'on arrive à faire venir par exemple aux représentations ou aux événements des gens qui justement ne travailleront jamais dans la culture, ça les intéresse pas forcément, mais par contre venir à nos événements,
ouais, la présence sur place dans l'institution,
voir des pièces de théâtre, venir voir un concert, c'est des gens qui vont peut-être pas en fait en dehors de Sciences Po à des concerts ou au théâtre en fait, et juste ils viennent parce que c'est les copains, parce que c'est Sciences Po, et en fait bah on les amène au théâtre quoi.
Ouais,
et...
le microcosme de création permet quand même de l'ouvrir à l'école.
Ouais, mais c'est à l'école. Moi, c'est un peu le truc de, voilà, on fait des trucs plutôt de qualité, mais c'est renfermé à une petite partie des gens, et des fois, c'est un peu frustrant. Mais je pense que si on en a conscience, et qu'on a conscience qu'en vrai, ce qu'on fait, c'est super cool, mais c'est à l'échelle de 2000 personnes, bah, en vrai, c'est pas gênant, quoi. Il y en a, je sais qu'il y en a, ça leur déplaît énormément de se dire, ah, on reste entre nous, et tout. Bon, bah, c'est une réalité. C'est difficile de s'ouvrir quand on est dans une école, mais si on en a conscience, et que on n'est pas dans notre estime de ce qu'on fait beaucoup plus haut que... Voilà, moi, j'ai conscience que mon organisation, ma gestion, ma pratique culturelle, elle est très réduite dans les personnes que je touche, mais j'en touche, et c'est cool en vrai.
C'est juste
de se dire ça.
C'est une période aussi restreinte de la vie,
oui,
quoi. Enfin,
oui,
c'est
aussi,
quelques années,
carrément.
Et tu, justement, donc là, tu parlais de la place de la culture plutôt au niveau des élèves, et l'institution, vraiment, elle soutient plutôt la culture, elle arrive à la valoriser. Toi, du coup, d'autant plus que maintenant, t'es coprésidente d'une des grosses institutions culturelles de Sciences Po, par rapport vraiment voilà, à la direction et aux plus gros organes dirigeants de Sciences Po, est-ce que vous êtes assez valorisée ou en tout cas encouragée ?
Ouais, bah, les associations en général, du coup, sont très valorisées. Puisqu'on a des gens qui sont nos interlocuteurs au niveau de l'administration et qui portent aussi un peu, qui nous défendent un peu dans ce que ça peut apporter dans notre cursus d'être faire de l'associatif et que bah, y a pas que les cours dans la vie et c'est le but. Mais je pense qu'on est quand même soutenu. On a cette chance-là, par exemple, quand je parle avec des gens, enfin, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui font de l'associatif à la fac. Nous, on a un cadre tellement privilégié. Enfin, voilà, on a quand même, on touche quand même des subventions. Pas mal, en tout cas nous cette année par exemple on a obtenu toutes les subventions pour tous les ateliers dont on avait besoin, donc ça sur ça d'un point de vue financier on est soutenu, d'un point de vue organisation on est soutenu, par exemple au début de l'année il y a plein de petites formations qui sont organisées à destination des présidents et présidentes d'associations sur la gestion d'un budget, alors c'est minime hein. Et puis en général en vrai on l'a déjà fait et on l'apprend sur le tas, mais je trouve que ça démontre aussi d'une implication de se dire on n'a pas envie, enfin on a vraiment envie que ça fasse partie de votre cursus et on vous donne un peu les clés pour que vous soyez pas lâchés dans la nature. Donc je dirais qu'on est soutenu de manière associativement générale, mais au niveau de la culture, je pense pas qu'il y a un... Enfin en tout cas, nous c'est notre avis, peut-être qu'il est biaisé, mais de notre avis interne, moi en tant que, encore plus aujourd'hui en tant que présidente, coprésidente du Bureau des Arts, je pense que la culture n'est pas valorisée beaucoup par l'administration. Et par exemple, on a un master qui prépare au management culturel, plutôt au niveau territorial, mais qui prépare à ça. Et il est très peu mis en valeur. Et il y a très peu de choses qui sont mises à leur disposition d'un point de vue professionnel et de débouchés professionnels. Bah, on a des rencontres de professionnels qui sont organisées au début de l'année où des alumni de Sciences Po sont invités à parler de leur métier. Et donc, ils invitent des gens et en général, ils essaient de toucher un peu tous les masters. Et cette année, il y avait zéro personne du monde culturel. Sur les 60 invités, il y avait personne. Et donc ça, moi, je pense que ça démontre aussi du fait que ils considèrent pas que c'est important et ils considèrent pas, enfin ils ne prennent pas conscience que pour une grande partie de, enfin une partie en tout cas de leurs élèves, c'est vraiment leur vie. En tout cas d'un point de vue étudiant, moi les gens que je rencontre avec qui je gravite, c'est leur vie tourne autour de leur pratique artistique ou culturelle ou de leur engagement auprès du Bureau des Arts. Et pour celles et ceux qui sont dans le master culturel, c'est ce qu'ils vont faire dans leur vie et je trouve ça hyper dommage que ça soit pas mis en valeur alors qu'en vrai surtout on produit quand même de la qualité, on produit quand même des choses de qualité pour des étudiants qui sont pas professionnels en fait, et que ça soit pas plus mis en valeur par l'administration, je trouve ça dommage.
Oui, de pas vraiment prendre en compte la valeur aussi et l'importance de ces pratiques là pour aussi que les élèves puissent se projeter.
Ouais,
c'est assez limité. Et du coup, tu trouves que le cadre qui est imposé par l'institution, il est plutôt restrictif ou au contraire assez créatif ?
Alors, on a énormément de liberté dans ce qu'on fait. L'administration n'a pas de regard sur ce qu'on fait parce qu'aussi, on est relativement indépendant d'eux. On est affilié à eux, enfin, on a un statut particulier, mais normalement, ils n'ont pas de regard sur ce qu'on fait tant que ça respecte la charte éthique de Sciences Po, qui est quand même très large. Ils n'ont pas de regard sur ce qu'on choisit, sur ce qu'on fait. Mais je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on met pas tout à notre disposition exactement comme on pourrait le faire pour d'autres associations. Et donc l'espace il est restreint des fois en termes matériels, par exemple c'est tout con, mais on a pas de local pour stocker ni nos décors ni nos costumes, on a rien. Donc en fait on stocke les uns chez les autres, mais sauf que c'est pas possible. Donc en fait on finit par redonner à Emmaüs, donc chaque année on se retrouve à réacheter des choses. Enfin, du coup, j'ai l'exemple de la pratique théâtrale à l'INSA de Lyon et c'est énorme. Enfin, c'est très différent. Et on a zéro local, on n'a pas de moyens matériels autres que de l'argent en fait. Et je trouve ça dommage parce que l'argent ça résout pas tout et qu'il y a d'autres choses.
Quand on achète des choses, il faut bien les mettre quelque part.
Voilà, il faut les mettre quelque part. On a besoin de com, on a aussi besoin peut-être aussi de se dire que l'administration porte un regard sur ce qu'on fait et il y a aucun regard qui est...
Oui, la liberté, elle est presque un peu... Vous êtes parfois un peu trop lâché à vous-même, quoi.
Je sais pas si c'est lâché à nous-mêmes, mais c'est vraiment le fait de se dire, en fait, que ce qu'on fasse, ça soit de la qualité ou pas, ils s'en fichent, quoi. Mais par contre, on n'est pas du tout bridé sur ce qu'on fait. En tout cas, ça nous est jamais arrivé. Ne jamais dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu ce problème.
Et toi, tu penses que t'as quand même ce besoin d'affirmer la place de la culture dans ces institutions-là ?
Ouais. Mais c'est un peu une volonté aussi. de l'affirmer et de dire bah en vrai on existe, on produit de la qualité et on aurait envie d'être aussi valorisé que les sportifs et les sportives. Non mais c'est un peu le truc à Sciences Po, en tout cas dans mon établissement, où c'est vrai que le sport est vraiment mis en valeur par l'administration, sur le site internet par exemple. On parle pas du tout des associations culturelles. Moi, avant d'arriver à Sciences Po et qu'on en parle, je savais pas qu'il y avait une pratique théâtrale. Alors ça paraît évident dans un établissement où il y a de l'art, a priori tu te dis il y a une troupe de théâtre parce que c'est un peu les pratiques artistiques les plus basiques on va dire, mais c'est pas mis en valeur sur les jeux. Par exemple, à la réunion de rentrée, on parle de l'AS, donc de l'association sportive, mais on parle pas du bureau des arts, alors qu'il y a autant d'ateliers au bureau des arts que d'équipes de sport, enfin de différents sports. Et donc ça permet pas aux premières années de se projeter, et en général on se retrouve à faire de l'art à Sciences Po que en deuxième ou en quatrième année, donc en rentrant de notre mobilité, parce que en fait on nous en a jamais parlé, et donc l'administration ne nous met pas en lumière, et ça c'est vrai que c'est vraiment dommage.
La culture va plus à des gens qui sont déjà initiés.
Oui, voilà, c'est ça, il y a plein de gens en fait qui se retrouvent à venir au Bureau des Arts qu'en quatrième année, parce qu'ils se sont retrouvés en deuxième année à aller à un événement du Bureau des Arts, qui sont vachement moins mis en valeur, dont on parle moins, et qu'on a peut-être aussi moins dans l'imaginaire, parce que c'est vrai que dans le supérieur, il y a cet imaginaire du sport, mais peut-être moins de la culture. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté de l'affirmer, de faire de la communication, de dire aux gens, bah, venez en vrai, parce que justement, c'est de la culture à un prix abordable. Alors c'est sûr que c'est moins qualitatif que d'aller voir un spectacle au Théâtre National de Bordeaux,
Mais c'est plus accessible aussi parfois.
Oui, c'est plus accessible, c'est fait par des gens que vous connaissez, voilà. Et on a aussi des rencontres entre les IEP artistiques. Et pareil, ça, à Sciences Po, personne ne les connaît. Enfin, si t'es pas dans une association artistique, tu sais pas que ça existe. Alors qu'on a l'équivalent pour le sport, et ça, tout le monde est bien au courant que ça existe. Donc ça, il y a aussi nous cette année, en tout cas c'est avec ma coprésidente, on a cette volonté, on va essayer d'organiser des choses pour le mettre en valeur et dire en vrai, vraiment, notre culture aussi et notre pratique associative, elle rayonne aussi entre les IEP, et on construit aussi, on essaie quand même aussi de construire quelque chose tous ensemble en termes artistiques, et c'est cool, venez vibrer avec nous quoi.
Et toi un peu pour la suite, t'aimerais, enfin ça fait partie un peu de tes projets de continuer à travailler pour le coup dans la culture quand tu auras fini tes études?
Ouais.
Comment ça s'impose à toi ?
Il y a plein de choses. J'avais aussi eu un peu le côté peut-être un peu plus technique. Mais pour avoir expérimenté, je pense que l'intermittence, c'est pas forcément fait pour moi. Parce que moi, je pense que j'ai besoin de faire des choses tout le temps. Et du coup, le côté soit rien, soit très intense, c'est pas pour
c'est
moi.
C'est pas pour toi.
Non. Du coup, ça, je l'ai laissé un peu de côté. Mais c'est bien, j'ai pu tester et me rendre compte que c'était pas pour moi. Mais par contre, encore plus là, depuis cette année où je fais vraiment... du coup, ce que je fais, ça pourrait être... c'est à plus petite échelle, mais ça peut représenter ce que je peux faire au niveau d'un petit théâtre, par exemple, un peu de programmation ou de la gestion, ou des trucs un peu comme ça. Ça me parle. Et je pense que là, ça, dans ça, ça peut me correspondre et je peux vraiment être douée là-dedans. Et surtout, je pense que c'est un monde... Enfin, actuellement, la culture est de plus en plus... c'est des banalités, mais c'est de moins en moins subventionné, il y a de moins en moins de monde, et quand on travaille là-dedans, il faut aussi avoir conscience, je pense, qu'on va donner beaucoup de nous-mêmes. Et pour moi, pour donner beaucoup de soi-même dans son travail, il faut avoir très très envie de faire ce qu'on fait, beaucoup aimer et y croire. Et ça, je pense que j'y crois, j'aime beaucoup ça, et je suis prête à donner beaucoup de moi dans ce métier-là. Donc ça serait plutôt dans un côté un peu administratif, que ça soit dans le théâtre, parce que c'est je viens de là, en tout cas dans ma découverte de l'art, ou dans autre chose, en vrai, je suis plutôt ouverte. Mais c'est vrai que c'est là où je pense que je m'y vois le plus, parce que j'ai une vision. Je me sentirais vachement moins légitime de travailler dans un truc sur l'art contemporain, par exemple, parce que j'y connais vraiment rien. Après, je pense que c'est la même chose, mais du coup, ça te parle moins quand tu te retrouves à démarcher des artistes ou à faire des contrats ou des demandes sur quelque chose que tu connais pas ou que tu t'appréhendes pas du tout. Mais après, c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres choses. Mais voilà, donc je pense que je suis passée de cette vision. Je vais travailler plutôt dans la technique parce que c'est une nouvelle découverte, je trouve ça trop cool, et c'est aussi un milieu que je trouve trop bien, à plutôt dans l'administratif, mais en tout cas dans la culture, parce que je pense aussi que c'est un monde d'un point de vue professionnel qui me correspond pour avoir échangé là-dedans, même si j'ai pas forcément eu mes côtés intermittents quand j'ai été avec des techniciens et des techniciennes. C'est ce côté peut-être un peu moins formel que dans d'autres secteurs où on n'est pas, alors on n'est pas meilleur pote dès qu'on arrive, mais c'est pas formel quoi. Y a, les échanges entre les gens sont pas distingués. C'est simple en fait de parler aux gens, d'arriver, tes nouvelles. Les gens te parlent normalement. Tu sens qu'il y a pas besoin, il y a pas de code particulier à avoir dans ton, dans ta manière de te comporter en fait. Il y a pas de de choses d'appellation mauvaise que tu pourrais avoir, même si la personne elle est hiérarchiquement au-dessus de toi. Oui, il y a une forme de respect particulière parce que c'est pas la même, le même poste, mais on sent qu'il y a pas des barrières hiérarchiques.
Il y a plus de collaboration.
Ouais, ouais, y a, comme on pourrait avoir dans d'autres secteurs. Et moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un. J'ai du mal à être dans ce côté très formel parce que je suis pas du tout douée pour ça. Et je pense que si je travaillais, si je me retrouve à travailler dans un côté très formel, je me sentirais pas du tout à l'aise et je me sentirais pas du tout moi-même. Et je pense que dans un, voilà, travailler dans le monde culturel, ça me parle et ça me plaît parce que ça correspond à qui je suis et à comment je me comporte avec les gens aussi.
Et tu, qu'est-ce que toi, tu, pourquoi ça a du sens, pardon, pour toi de continuer justement dans ce monde, comme tu viens de dire, où la culture a une place de plus en plus difficile et de, pour plein d'autres raisons sociétales, dans notre monde bien compliqué en ce moment.
Pourquoi du coup ça a du sens, ouais, de travailler là-dedans, ouais. Ouais, malgré le fait que ça soit compliqué. Bah, je pense que parce que bah, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut arrêter de le faire. Alors par contre ça fait un peu peur parce que tu te dis ok je veux faire ça mais est-ce que je vais vraiment trouver du travail ?
C'est un autre sujet. On t'entendra dans 2 ans pour en reparler.
Mais en tout cas d'un point de vue juste quand on se projette ça donne, je trouve que c'est aussi, il y a un peu ce côté ça te motive encore plus parce que tu te dis ok il faut vraiment qu'il y ait des gens qui aient envie de le faire donc je vais encore plus le faire, mais par contre avec cette conscience de se dire ça va peut-être être, ça va demander beaucoup d'énergie et aussi des fois de se dire bah, je fais quelque chose, mais en fait, ça change rien. Et derrière, il y a le côté, le système au-dessus de moi qui est plus grand, qui fait que même si ce que je fais à petite échelle, ça a une micro-importance, bah, c'est... En vrai, ça, si on pense au niveau global, ça sert à rien. Enfin, c'est un peu ce truc des fois de... On fait un truc à une petite échelle, on trouve ça trop cool, on se dit, ah, je touche quelques personnes, c'est chouette. Et en fait, des fois, tu prends du recul et tu fais... Mais en fait... Je me prends pour qui ? Enfin, je fais venir 300 personnes au théâtre qui sont déjà hyper ouvertes à ça. Enfin, qui suis-je en fait ? Redescends. Mais je pense que ça a du sens quand même. Parce que déjà, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Il faut qu'il y ait des gens qui croient qu'ils le fassent. Parce que si on n'y croit pas, ça peut pas marcher. Et donc, moi, j'y crois, j'ai envie de le faire. Et en tout cas, je suis prête à travailler avec des gens qui ont envie de le faire et de se battre pour ça. Et ça, ça me parle. Et je pense que même actuellement, si c'est compliqué... Bah, ça me donne encore plus envie de le faire, en fait, je crois.
Et justement, bah, toi, Juliette, tu es très jeune. Comment tu trouves que, justement, notre jeunesse arrive à se saisir de la création artistique et à en, vraiment en faire un moteur social et voire politique ? Ou tu penses que c'est un peu, justement, dans un microcosme, comme tu racontes, qu'on a un peu l'impression qu'on fait des grandes choses et, bon, en vrai, pas tant que ça, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Hein.
Je pense que l'art, ça a toujours été politique. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est difficile de comparer à avant, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que quand on crée des choses, on a aussi envie que ça raconte quelque chose. Que quand on crée une pièce, par exemple, nous, on avait envie que notre pièce qu'on choisisse, elle raconte un peu quelque chose. C'est vrai que les années d'avant, par exemple, c'était, on faisait beaucoup de choses peut-être très humoristiques, mais qui racontaient pas forcément quelque chose. Alors, on peut faire de l'humour en portant
quelque chose, par exemple, en racontant une époque ou
oui,
une...
qui porte des valeurs, un message, quelque chose auquel on croit, qui porte plus que juste on raconte une histoire. On raconte des malentendus entre les gens. Enfin, c'est très bien aussi, hein, mais nous, en tout cas, c'est pas l'envie qu'on avait. Et je vois que depuis que je suis, du coup, ma première année, donc c'est ma troisième année au sein de l'IEP, même si c'est ma quatrième année, parce qu'il y a une année à l'étranger, je sens aussi que dans ce qu'on propose, chaque proposition, que ça soit une proposition de dessin, une proposition d'atelier photo, des spectacles de musique, de danse, bah, à chaque fois, il y a une portée plus politique, on va dire, et de porter un message, ce qui n'était peut-être pas le cas un peu moins avant, même si voilà, on a toujours envie de porter un message quand on fait quelque chose, mais en tout cas, il y a cette envie-là.
C'est très subjectif, la portée du message qu'on porte.
Mais je pense qu'il y a cette envie-là, en tout cas, dans la jeunesse que moi, je côtoie, à chaque fois qu'on fait une pratique artistique, on a envie que ça raconte quelque chose. On a vraiment envie que ça raconte quelque chose, et on a envie que ça raconte notre époque, et on a envie aussi que ça porte ce en quoi on croit.
Voilà. Donc toi, t'arrives à t'identifier à cette jeunesse des années 2020 ?
Ouais, en vrai, oui. En tout cas, c'est celle que je côtoie, encore une fois. Voilà, ma jeunesse, en tout cas, ouais, je m'identifie, je m'y sens bien et je pense qu'elle me parle, ouais.
Et alors, on va arriver à la fin. Et Juliette, je vais te demander, comme j'ai demandé il y a deux semaines à Néa, une recommandation culturelle qui est relative à la jeunesse, quelque chose qui raconte cette jeunesse, qui est la tienne ou qui est universelle, on ne sait pas.
Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé vachement autour de moi, vraiment beaucoup. J'ai réfléchi, donc j'ai trouvé trois trucs. Le premier, pour moi, c'est Les Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf, donc qui est une bande dessinée qui raconte la vie d'une jeune fille et tous les ans, enfin qui raconte du coup, qui est basée sur les anecdotes vraies d'une personne qui existe réellement, que cette personne racontait du coup à l'auteur Riyad Sattouf. Et donc lui, il en a fait une BD avec des petits épisodes, et donc il en sortait une par an en suivant l'âge du coup de cette jeune fille. Et donc là, il a fait la dernière l'année dernière de 18 ans, donc où elle finissait le lycée. Alors du coup, c'est plutôt ma petite sœur qui, elle, a 18 ans, donc qui a vraiment suivi cette Esther. Mais moi, c'est 3 ans d'écart, mais en vrai, quand je lisais, il y avait plein de choses auxquelles je m'identifiais, sur des blagues, des comédiens qui rentrent en... des acteurs qui rentrent en vogue et que tout le monde trouve trop beau et tout. Enfin, ça faisait trop partie de moi, ce que je vivais. Et ça raconte, je pense, très bien notre génération, parce qu'il y a le Covid aussi. Enfin, je pense que voilà, celle-là, cette BD, elle raconte notre génération. Et après, ça, du coup, c'est plus personnel.
Et t'as déjà eu des retours de cette BD lue par des gens qui sont pas de notre génération?
Ouais, bah moi, mes parents, justement, ça les fait trop rire parce que ça leur parlait beaucoup en tant que parents.
De
par
comprendre.
Rapport, ouais, par rapport à ma sœur et moi, ils disaient waouh, mais c'est fou, c'est comme vous. Donc, ça, ouais, je pense que du coup, c'est en ça exactement que ça raconte bien, je pense, nous. Parce que des gens qui sont pas nous disent ah, on
c'est
vous,
donc ça, vous.
On vous y reconnaît. Voilà, et après, il y a Scam.
Oh waouh, mais oui!
Scam, qui est une série, une franchise, on va dire, qui est adaptée dans plein de pays européens, qui suit un groupe de copains et qui, chaque saison, se concentre sur une personne de ce groupe et qui raconte un peu un problème. Et ça balaye vraiment.
Donc c'est une série qui est sortie quand nous, on était plutôt au collège-lycée à peu
ouais,
près.
Ouais,
donc,
ouais, fin.
Ouais, ouais, c'est ça, plutôt fin des années 2000, ouais, 2020. On était ouais, entre ouais, 2015 et 2022,
ouais,
23
c'est ça,
à peu
pense
près.
Que
ouais,
ça a commencé, ouais, mais du coup, ça a commencé en Norvège, je crois. Et donc,
ouais,
c'est un
première,
peu les.
Ouais. Il y a eu plein de franchises un peu en Europe. Ouais. Il y a une version française, du coup.
Une version française, du coup, ça suit. Et chaque saison, en gros, traite d'une personne et traite d'un thème. En fait, en partie.
Thèmes assez intenses.
Ouais, à chaque fois, de thèmes assez intenses. Donc, des fois, c'est un peu, c'est entre guillemets caricatural, mais il y a toujours des petits trucs auxquels on.
Oui, on peut avoir le harcèlement,
ouais, y a
la bipolarité,
ouais,
l'homosexualité, le VIH aussi.
Ouais. Et puis, il y a des thèmes, peut-être aussi des fois un peu moins lourds, mais juste sur comment tu te sens dans un groupe, le rapport à l'amour, le rapport à l'amitié. Et ça, c'est des choses qui parlent et qui racontent aussi nous. Et qui, en tout cas, moi, m'ont beaucoup parlé et qui racontent aussi ce que j'ai pu vivre. Et ça résonnait aussi avec ce qu'ont pu vivre des amis, en tout cas des retours que j'ai pu avoir.
Oui, puis je pense que notre génération qui a suivi Scam, il y avait un peu aussi tout un effet de, ces, pour une fois, quelque chose qui nous parle, qui
ouais,
où on, parce qu'on a, je pense qu'on a quand même souvent dans la pop culture, etc., une vision de la jeunesse où on est là, mais je crois que ça ressemble pas trop à nous, ça ressemble plus à celle de la génération de nos parents, etc. Et là,
ouais,
bah, il y a par exemple l'impact des réseaux sociaux, enfin, c'est beaucoup plus ancré dans,
ouais,
dans nos réalités de l'époque, en tout cas.
Ouais, c'est ça, et puis il y a au fait finalement aussi les choses, parce que du coup, en réfléchissant, j'en ai parlé et tout, et je cherchais des séries... de nous, enfin, qui arrivent là maintenant, nouvelles, et je me disais waouh, mais en fait c'est que des séries américaines, et en fait qui sont, alors peut-être que ça raconte la réalité aux États-Unis, mais en tout cas ça raconte pas la nôtre, et du coup c'est difficile, il y a un côté un peu aussi idéal où nous on idéalise autre chose que ce qu'on peut avoir ici, donc je cherchais et tout, et c'est vrai que Scam, c'est, ça raconte
et
vraiment.
Scam, est-ce que des adultes que tu connais l'ont vu?
Non,
je pense que c'est plus difficile d'accepter peut-être pour d'autres.
Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, en plus, c'est en tout cas, ça raconte vraiment ce que j'ai pu vivre. Enfin, le côté lycée, d'être en cours et de, enfin, je sais pas. C'est vraiment, il y a toute une ambiance qui est vraiment très, très, qui moi, en tout cas, pour moi, je trouve raconte vraiment ce qu'on peut vivre comparé à une série américaine qui, en vrai. À part peut-être des introspections personnelles où tu fais ok, ça rentre avec ce que je peux vivre, mais le quotidien que raconte une série américaine n'est pas le quotidien qu'on vit, alors que le quotidien raconté par Scam
se rapproche plus en tout cas du quotidien,
ouais,
en tout cas d'une,
ouais,
d'une frange assez de classe un peu aisée ou citadine quand même pas mal, mais
oui,
y a quand même,
ouais, citadine, ouais.
On se rapproche un peu plus quand même.
Voilà, c'est ça. Et après, le dernier, c'est du coup une chanson de Gaël Faye qui s'appelle Seul et vaincu et qui est suivie par une autre qui s'appelle Lueur. Et c'est deux chansons qui racontent plutôt de la colère et sur la colère, l'engagement et est-ce que c'est le monde aujourd'hui et qu'on n'en veut plus et qu'on va créer autre chose. Puisque du coup, voilà, il dit vous finirez seuls et vaincus et nous, on fera autre chose et on fera un monde meilleur et on a envie. Et donc, c'est un duo de chansons qui se suivent dans son album. Et la première est plutôt. Entre guillemets violente, où c'est très revendicatif et voilà, on va changer le monde et vous, bah, vous serez derrière et vous aurez vous serez à la ramasse, quoi. Et la deuxième, c'est Lueur, et celle-là, elle est un peu plus douce, et elle est plus, je vous raconte ce qui va se passer, et ça va se passer comme ça, et nous, on y croit, et puis si vous voulez pas suivre, vous voulez pas suivre, et vous serez seul. Mais nous, il y a une lueur pour nous. Et je trouve que c'est positif, en fait. Ces deux chansons, je trouve qu'elles sont positives. Elles parlent des problèmes, de l'engagement, mais justement, elle est dans ce côté, on va faire autre chose, en fait. Et vous serez seul, en fait. Et c'est nous qui allons gagner.
Et tant pis pour vous.
Ouais, c'est ça.
On peut le faire avec vous aussi.
Si vous avez envie de nous suivre.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer?
En vrai, non. C'est... beaucoup parlé de moi, mais...
mais c'était ce qu'on te demandait, c'était parfait. Vous venez d'écouter un épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. La technique de l'enregistrement et du montage a été assurée brillamment par Elio Vatan. Le graphisme, encore une fois, par Émile Caron. L'écriture et la réalisation des podcasts par moi, Marwa Picard. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, dans les descriptions, également sur notre site internet développé par Zadig Motel Picard, et on a même une newsletter. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode, pour un nouveau Tourbillon. Bonne fin d'écoute à tous.